5 jours à regarder les marchés. Ouais, bon, en fait, c'est plutôt 4 jours parce que lundi, on a préféré faire, enfin, ne rien faire et larver au soleil pendant que l'Europe s'excitait sans volume. Donc, 4 jours à regarder les marchés, faire quelque chose d'absolument, tout simplement, fascinant. Monter sur des rumeurs, monter sur des espoirs, monter sur des sources proches des négociations qui ne savent rien de plus que vous et moi, mais qui savent quand même des trucs qui font monter les marchés. Cette semaine, les marchés mondiaux ont fonctionné et ils ont trié les bonnes nouvelles des mauvaises durant toute la semaine. Ils ont vu qu'il y avait pas mal de mauvaises nouvelles quand même et donc ils ont décidé de se concentrer sur les bonnes. Oui, parce que c'est mieux les bonnes. Enfin, surtout sur le fait que l'on s'est convaincu toute la semaine qu'on va trouver un accord de prolonger le cessez-le-feu. Ça nous a amplement suffi pour générer la dynamique de la hausse. Le moteur de la semaine, vous l'avez deviné, vous l'avez compris, vous le savez, c'est l'Iran, encore et toujours l'Iran. L'accord qui arrive, l'accord qui n'arrive pas, l'accord qui avance bien, l'accord que Téhéran dément, l'accord que Trump annonce sur Truth Social entre deux postes pendant sa partie de golf, l'accord du siècle qui n'existe pas encore, mais qui techniquement fait monter les marchés comme s'il était déjà signé, encadré et accroché au mur du bureau ovale. Bienvenue donc dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 30 mai 2026 et je suis Thomas Veillet. On va décortiquer ensemble la semaine la plus kafkaïenne de l'année, même si j'ai l'impression que toutes les semaines de cette année sont kafkaïennes de plus en plus.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Commençons donc par l'essentiel, le détroit d'Ormuz. 20% de l'offre pétrolière mondiale passe par là, vous le savez, si on ne l'a pas répété 1000 fois depuis la fin février, on ne l'a jamais dit. Même sur BFM et LCI, ils le savent. Depuis le 28 février, date de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, ce détroit est pratiquement bloqué. Et depuis le 28 février, les marchés mondiaux sont otages de cette artère. Et depuis le 28 février, le baril est en délire. Au début, on trouvait ça drôle. Après, on a vu que ça faisait quand même du mal à la pompe. Et on a eu un peu peur. Et puis, on s'est gentiment habitué au concept du moins pire. Et il y a eu un instant où les marchés trouvaient presque ça super que le baril soit redescendu à 90$ et que c'était vraiment génial. Faisant fi du fait qu'il y a encore 3 mois, il était à 58$ et qu'on pouvait encore trouver des stations-service où le litre de sans-plomb était en dessous des 2 balles. Et là, le WTI est à 87,39 ce matin et c'est presque un cadeau à ce prix-là. Un cadeau qui fait monter les marchés et qui n'a bien sûr aucun impact sur l'inflation. Il faut dire qu'on a gagné tellement de fric sur l'IA que le prix du baril n'a plus d'importance. Cette semaine, le Brent fait le yo-yo entre 88 et 100$. Lundi, espoir d'accord, pétrole chute de 5%, les bourses s'envolent en Europe parce que les requins étaient fermés. Mardi, les Américains frappent l'Iran pendant la nuit, pétrole remonte, bourse recule en Europe et ça baisse un tout petit poil aux USA. C'était d'ailleurs le seul jour où ça baissait et qu'on avait l'opportunité d'acheter sur faiblesse. Mercredi, semi-accord, semi-démenti, pétrole rebaisse, marché hésite, mais monte quand même, dans le doute. Et puis jeudi, nouvelle frappe, représailles iraniennes, inflation PCE américaine à 3,8%, son plus haut depuis 3 ans, et les marchés finissent quand même en hausse. Vendredi, Trump annonce sa décision finale à venir, Téhéran dit que c'est faux, Brent en dessous des 92$, Wall Street bat des records. Nous sommes à la fin du mois de mai, c'est la 9e semaine de hausse consécutive et tout ça avec un pétrole qui est cher, une inflation qui continue de monter et une instabilité qui n'est masquée que par les discours rassurants de Donald Trump, qui sont d'ailleurs toujours les mêmes, il faut bien le dire. Je ne sais pas si vous voyez le schéma, c'est une espèce de machine à fabriquer de la volatilité narrative. Tous les matins, les marchés décident ce qu'ils veulent croire, et ce qu'ils veulent croire, c'est l'accord. L'accord comme un horizon, l'accord comme un objectif perpétuellement décalé. C'est un mirage dans le désert, plus tu t'en approches, plus il recule, mais entre-temps, tu continues de marcher. Et le marché, lui, il monte quand même. Mais au fond, on sait tous que cet accord, s'il y a un accord, sera un accord bidon entre gens qui se détestent cordialement depuis la crise des otages américains et que c'est pas en 3 jours de négociation qu'on va régler 46 ans de haine cordiale. Donald Trump ou pas Donald Trump, art du deal ou pas art du deal, on s'en fout, le marché veut y croire, alors il monte. Parlons d'ailleurs de Donald Trump, pas du président, hein, du gestionnaire de fonds, hein, parce que ce type est devenu, et on peut le dire sans rire, le principal market maker de la planète, le principal faiseur de news de la planète. Comme disait je ne sais plus qui l'autre jour, Donald Trump n'est pas initié, parce que Donald Trump est la nouvelle lui-même. On ne peut pas lui reprocher de jouer la nouvelle, alors que c'est lui qui la crée. Chaque poste sur Truth Social est devenu un event de marché, chaque phrase ambiguë sur l'Iran fait boucher le pétrole de 3%, chaque annonce de décision finale imminente envoie les futurs en hausse de 1%. Vendredi, Trump déclare qu'il s'apprête à prendre sa décision finale sur l'Iran. Le marché s'emballe. Deux heures plus tard, Téhéran publie un démenti officiel. Via l'agence Tasnim, le marché continue de monter quand même, parce que l'espoir subsiste, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et comme surtout si on était dans un scénario hollywoodien où ça finit toujours bien à la fin, où les gentils s'évadent avant que l'immeuble s'effondre, où le gentil flic coupe le fil rouge avant que la bombe n'explose. À la dernière seconde, bien sûr. Non, ce qui est fascinant aujourd'hui et légèrement inquiétant pour la santé mentale collective, c'est que les investisseurs professionnels, des gens avec des CFA, des PhD d'économie, des décennies d'expérience, sont en train de trader des postes de réseau social d'un homme dont la relation à la vérité est, comment dire, assez créative. Et ils le font consciemment, en souriant, en trouvant ça super et presque normal, même si au fond nous, il y a toujours un doute qui persiste quelque part. C'est ça, la finance en 2026. Un Bloomberg, mais en mode Snapchat. Néanmoins, cette semaine, Trump nous en a fait une bonne, ou refait plutôt une bonne, et sur Dell. Le gars encourage tout le monde à acheter Dell, il y a 3 semaines, ensuite il file un contrat de 10 milliards à Dell, et les résultats de Dell il y a 2 jours sont tellement canons que le titre a littéralement explosé. Il fut un temps où la loi obligeait les boîtes à prévenir le marché quand les attentes des analystes étaient trop loin de la réalité du marché. Jeudi, Dell a fait pratiquement 2 fois mieux que les attentes, et ça ne choque personne qu'il n'y ait pas eu un profit warning à la hausse. La loi des marchés, les règles de marché ne veulent plus rien dire et Trump est passé dans un monde où nous ne sommes pas et où il fait ce qu'il veut sans que cela n'entraîne la moindre conséquence, surtout pour lui. Et tout le monde trouve ça absolument normal. Si vous n'avez pas vu l'histoire de Dell, c'est normal parce qu'on en parle presque nulle part. J'en ai parlé dans le Morning Bull d'hier et vous pouvez le revoir. Le lien est en dessous de cette vidéo ou alors vous cliquez sur la vignette à la fin de cette vidéo. Mais faut rester jusqu'à la fin. Et puis alors, pendant que tout le monde regardait l'Iran comme une émission de télé-réalité, il y avait un invité surprise, jeudi, l'inflation. Enfin, surprise, faut le dire vite, hein, l'effet surprise était quand même éventé depuis pas mal de temps. Et celui qui me dit qu'il était surpris que l'inflation soit si proche des 4%, bah c'est que c'est un menteur. Mais toujours est-il que l'inflation, l'indice PCE américain, la mesure préférée de la Fed, est sortie à 3,8% en avril, son plus haut niveau depuis presque 3 ans. Tiré par l'essence. Logique. Quand le pétrole flambe, parce que 20% de l'offre mondiale est bloquée, les prix à la pompe grimpent. Et les prix à la pompe se retrouvent dans l'indice. Et l'indice se retrouve dans les décisions de la Fed. Et la Fed ne peut pas baisser les taux dans ces conditions. Et si la Fed ne baisse pas ses taux, la valorisation, les valorisations boursières deviennent un petit peu plus intéressante à devoir défendre. En Europe, la situation n'est pas meilleure. Isabelle Schnabel, membre allemand de la BCE, celle qui dit les choses clairement et que personne n'a envie d'écouter, a déclaré cette semaine qu'elle voterait pour une hausse des taux dès le mois de juin. Et ceci même si un accord avec l'Iran était signé. Parce que la réalité macro, elle ne négocie pas avec Trump sur Truth Social. Le PIB américain au premier trimestre était révisé à la baisse, 1,6% annualisé contre 2% annoncé initialement. La France voit son PIB reculer de 0,1% au premier trimestre. L'inflation continue de monter en Europe. Et la BCE, qui pensait souffler un peu, se retrouve coincée entre soutenir la croissance et éteindre le feu inflationniste. C'est le scénario qu'on appelle la stagflation. Croissance qui ralentit, inflation qui remonte, banque centrale coincée, c'est pas sexy à dire, mais c'est là et c'est bien présent. Et même si Trump continue d'agiter les bras et de souffler sur les braises pour raviver son écran de fumée, la stagflation est vraiment là, on pourra dire ce qu'on veut. Mais peu importe la macro, parce qu'il reste toujours l'IA. Cette semaine a vu quelque chose d'assez remarquable. L'indice Philadelphie des semi-conducteurs a atteint son plus haut niveau depuis sa création en 1993. Et il est en passe de réaliser sa meilleure performance annuelle depuis 1999. Pour les gens qui ont connu 1999-2000, c'est le genre de phrase qui vous donne envie de vomir en général. Micron a rejoint le club des entreprises à plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. SK Hynix aussi. Samsung l'avait déjà fait. Dell a publié des résultats qui ont fait bondir son action de plus de 30% en une séance. Leur chiffre d'affaires des serveurs IA a été multiplié par 8 sur une année, par 8. Arm Holding a bondi de plus de 10% sur une séance. C'est le momentum IA qui dépasse maintenant les seuls pure players semi-conducteurs pour toucher l'infrastructure, le matériel, les services On va le voir encore avec Logitech tout à l'heure. La demande est réelle, les résultats sont réels, mais les valorisations intègrent déjà tout ça et une décennie de croissance derrière. Et quand les valorisations intègrent la croissance parfaite d'une décennie dans un monde où le détroit d'Hormuz est fermé et l'inflation repart, ça mérite au minimum qu'on se pose une question ou deux. La différence entre 1999 et aujourd'hui, en 1999, les entreprises tech n'avaient pas de revenus. Aujourd'hui, elles en ont. C'est mieux. Mais les marchés ont quand même cette manie de systématiquement extrapoler les tendances jusqu'à l'absurde. Et là, on commence quand même à y arriver un tout petit peu dans l'absurde. Je ne suis pas bearish. Je préviens, c'est tout. Maintenant, un petit mot sur la BCE, parce que c'est important pour les prochaines semaines. Isabelle Schnabel a donc clairement indiqué que la BCE pourrait monter ses taux en juin, dans un contexte où la croissance européenne ralentit, où la France est techniquement en légère récession au premier trimestre, où l'Italie n'est pas en grande forme non plus. Monter les taux, maintenant, c'est jouer au pompier pyromane. On éteint l'inflation, mais on met le feu à la croissance. La BCE est dans la position impossible de toutes les banques centrales depuis le choc pétrolier. Ces outils sont conçus pour lutter contre la demande et pas contre les chocs d'offres. Quand le pétrole monte parce qu'un détroit est fermé, la BCE peut monter ses taux autant qu'elle veut. Ça ne rouvrira pas le détroit d'Hormuz. Mais ça va ralentir le crédit, les investissements, l'emploi. Et les banquiers centraux le savent. Et ils le font quand même. Parce que la crédibilité anti-inflationniste, ça se construit sur des décennies et ça se détruit en quelques trimestres. Et après 2021-2022, personne à Francfort n'a envie de revivre l'humiliation de l'inflation transitoire. Et puis n'oublions pas une chose que tous les experts nous répètent encore et encore. Même si Trump trouve un accord, si Hormuz rouvre en mode full power lundi matin, la réalité du business pétrolier fait qu'il nous manque quand même 1 milliard de barils depuis le 28 février. Et chaque jour, c'est pire. C'est d'autant de barils qui ne vont pas dans vos voitures, dans vos smartphones, dans vos baskets, dans vos brosses à dents, dans votre dentifrice, dans votre shampoing, dans vos shorts pour aller courir, dans les pneus de vos voitures, même les voitures électriques, dans vos capsules Nespresso, dans les emballages de vos Mars, de vos sneakers, dans les couches du petit dernier, dans vos médicaments, dans vos rouges à lèvres, dans vos mascaras, vos lunettes de soleil, vos lunettes pour regarder cette vidéo, dans le PC que vous utilisez pour regarder cette vidéo, dans la peinture que vous mettez sur vos murs, dans les câbles de votre chargeur d'iPhone, ça marche aussi pour les Samsung, vos cartes bancaires, vos meubles IKEA, vos chewing-gums, vos panneaux solaires et vos éoliennes. Et je peux encore continuer comme ça pendant des heures. Ce milliard de barils qui manquent ne vont pas réapparaître par magie. Et avant que le baril redescende à des niveaux où les gilets jaunes ne voudront plus descendre dans la rue, il va falloir des mois, peut-être même des dizaines de mois. Et tout ça en supposant qu'entre deux, le cessez-le-feu à deux balles négocié entre Trump et les Iraniens ne parte pas encore une fois en vrille, ou plusieurs fois. Prenons maintenant un tout petit peu de recul parce que c'est là que le Swiss Bliss se distingue d'un bulletin de marché ordinaire. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est la démonstration clinique d'un marché en mode déni sélectif organisé. Wall Street bat des records, le S&P 500 termine la semaine à 7581, le Nasdaq rapproche les 27 000, le Dow Jones franchit les 51 000 et pendant ce temps-là, l'inflation américaine est à son plus haut depuis 3 ans. La croissance ralentit, un conflit armé bloque 20% du pétrole mondial et la BCE s'apprête à resserrer sa politique monétaire dans une économie qui tout saute. Comment est-ce que ça c'est possible? Comment des marchés rationnels, peuplés de gens intelligents avec des modèles sophistiqués, peuvent-ils valoriser les actifs à ce niveau dans cet environnement? La réponse c'est la même depuis toujours. Les marchés ne sont pas rationnels, ils sont narratifs. Ils ne valorisent pas la réalité, ils valorisent la réalité qu'ils veulent voir plus tard. Et le narratif dominant cette semaine c'est l'accord en Iran est imminent, le pétrole va baisser, l'inflation va refluer, les banques centrales vont assouplir et l'IA, bien sûr, va sauver la croissance mondiale. C'est un magnifique narratif, c'est un narratif cohérent, c'est même un narratif partiellement plausible. Mais c'est un narratif qui nécessite que tout se passe parfaitement bien et tout ça simultanément. Au même moment, en même temps, à l'instant précis. Trump signe l'accord, Téhéran accepte, le détroit rouvre, l'inflation reflue en 60 jours, la Fed peut baisser les taux, la BCE fait une pause. Elia va continuer de croître à 80% par année au minimum. La probabilité que tout ça se passe en même temps, je vous laisse faire le calcul vous-même. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est la comparaison avec d'autres moments de l'histoire. En 1999, les marchés avaient aussi un narratif parfait. Internet allait tout changer, et ça a tout changé. La croissance serait infinie, les anciennes métriques de valorisation ne s'appliquaient plus. En 2006-2007, le narratif était que l'immobilier ne pouvait que monter et que la titrisation avait éliminé tout risque systémique. Chaque bulle a son propre narratif rassurant, et chaque narratif rassurant a une durée de vie limitée. Je dis pas qu'on est en 1999. La différence fondamentale, c'est que les revenus de l'IA sont réels. Dell a vraiment multiplié ses ventes de serveurs par 8. Nvidia vend vraiment des puces à des prix astronomiques. La demande est là. Mais la différence entre une tendance réelle et une bulle, c'est pas forcément la direction. C'est la vitesse et la valorisation. Et là, on commence à être dans une zone où la vitesse est devenue son propre argument et le reste du scénario commence à être un tout petit peu tiré par les cheveux. Regardons rapidement les performances de la semaine. Donc évidemment, le semi-conducteur index, c'est la meilleure performance de la semaine des secteurs que l'on suit. 5,14 de hausse, suivi par le Nikkei qui n'arrête plus de monter malgré tous les problèmes qu'il peut avoir et le rendement du 10 ans japonais qui continue de monter, mais 4,72 sur la semaine. Le Dow Jones des transports se réveille parce que c'est tellement cool. Les avions, les compagnies aériennes vont gagner tellement d'argent avec le pétrole qui baisse. Le Nasdaq, c'est toujours la tech. Le S&P 500 suit le mouvement. L'Italie est en hausse malgré les chiffres économiques mezzo mezzo. La France qui annonce quand même une espèce de récession au premier trimestre est quand même en hausse de 0,83% sur la semaine. L'or, lui aussi, est en hausse de 0,8%. Et puis après, de l'autre côté, vous avez Hang Seng qui baisse, la Chine qui baisse, et puis le Bitcoin qui est au fond du bac, et le pétrole, bien sûr, qui se fait défenestrer en perdant 9,57% sur la semaine. Mais attention, ça peut changer lundi matin. Si on regarde les performances sur nos bons vieux titres du SMI, c'est Logitech qui remporte la coupe cette semaine, plus 8,63%, suivi de Richemont après leurs excellents chiffres de la semaine précédente, 8,44% de hausse, avec Amrise qui suit derrière et Holcim qui suit également derrière, parce que tout va bien dans l'économie. Puis autrement, le reste, eh bien, c'est un peu Partners Group qui continue à se faire massacrer et qui perd encore 3,7%. Les assurances en baisse, Novartis en baisse, Swisscom en baisse, UBS en baisse. Et finalement, il n'y a que Roche qui est à l'équilibre et puis quelques petits second liners qui sont en tête. Nestlé quand même a réussi à grappiller 0,84%. D'un point de vue technique, voici donc notre bon vieux SMI. Alors vous voyez que si on regarde simplement ce qui s'est passé cette semaine, si vous regardez les 4 dernières séances, c'est méga chiant. Hein. Donc le top de la semaine à 13 650 et des poussières et le bottom de la semaine, il doit se terminer autour des 13 450. C'est-à-dire qu'on a un range extrêmement serré parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Et c'est pas parce que Logitech prend 9% que le SMI va s'envoler. Néanmoins, d'un point de vue purement technique, on est sur une configuration où on peut espérer petite accélération. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est l'hésitation de fin de semaine. Vous voyez, sur les deux derniers candles qu'on voit ici, on a quand même une phase où on a une journée de baisse qu'on arrive à rebondir en fin de séance et une journée de hausse qu'on arrive à claquer pour ramener quasiment à zéro en fin de séance aussi. Donc, on voit beaucoup d'hésitation et peu de confiance en l'avenir, surtout que les vacances approchent. Le S&P 500 est au plus haut de tous les temps, il n'y a rien à dire, hein. Le trend est toujours là, toujours ferme, toujours confiant, j'ai envie de dire. Vous voyez qu'on a on est établi à la hausse, pour l'instant il n'y a vraiment pas de signe de faiblesse. Sur les quatre séances de la semaine, on a eu la séance de la semaine le mardi, où on a quand même perdu 3 bricoles, 0,4%, mais finalement on termine quand même la semaine au plus haut de tous les temps sur le S&P 500. Le Nasdaq, c'est pareil, les puristes diront oui, mais bon, il y a une espèce d'hésitation, c'est vrai, il y a une belle croix là en haut, tout en haut. Ça veut dire que le marché sait pas trop où aller pour la fin de semaine. En même temps, c'est la fin de semaine et on sait tous, bien sûr, qu'en début de semaine et tous les dimanches, on a toujours Trump qui vient nous faire son show et que tout peut arriver. Et si vous regardez un petit peu, donc si on reprend là, vous voyez la fin de semaine sur le Nasdaq, grosse hésitation, on finit inchangé quasiment. Et là aussi, grosse hésitation en fin de semaine précédente et encore une fois à la semaine d'avant. Donc on voit clairement que personne n'a envie d'être exposé au Nasdaq ou à quoi que ce soit d'autre en fin de semaine sur un week-end parce qu'on sait tous que Trump peut nous faire à peu près tout et n'importe quoi. Le SOX, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous voyez, on est quand même juste pas loin des plus hauts de tous les temps. On n'est pas exactement bassi, en fait, on est au plus haut de tous les temps sur le SOX quasiment. Bon, bref, voilà, tout va bien du côté des semi-conducteurs, il n'y a pas grand-chose à raconter là-dessus. Le DAX, pareil, il oscille au plus haut de tous les temps, malgré qu'on parle de hausse des taux, en Allemagne, enfin en Europe ces prochains temps. On en a parlé tout à l'heure, vous voyez qu'on est encore juste tout en haut. Là, les records sont ici. On n'est pas très loin, mais on n'arrive pas à casser non plus, franchement. Le CAC 40, il ne fait pas grand-chose non plus sur la semaine. Vous voyez là aussi, hein, regardez le range de la semaine sur les 5 sessions du CAC 40. Vous avez le bottom de la semaine se situe là, donc autour des 8150. Et puis le top de la semaine se situe là, autour des 8298. Vous voyez, 8150, 8298. 150 points de range sur le CAC pour l'indice qui vaut 8280. Eh bien, ça fait pas grand-chose et c'est extrêmement serré, ce qui veut dire qu'on s'emmerde et qu'on hésite beaucoup. L'or qui a été testé sa moyenne mobile des 200 jours cette semaine, vous le voyez ici, très clairement, on a rebondi pile poil dessus, mais on est toujours dans une tendance purement descendante sur l'or pour l'instant, si vous êtes un chartiste pur.
Le pétrole, regardez comme c'est beau, il a cassé la tendance haussière, c'est fini, tout va bien, on va revenir à la réalité, enfin on va peut-être revenir autrement à la réalité, mais vous voyez qu'on revient sur les 87$, on peut aller chercher les 80 en fonction des nouvelles la semaine prochaine, on a une tendance de fond qui est quand même bien établie, qu'on voit ici, qui est une tendance haussière, on peut aller chercher les bas à 76,52 si un accord est signé. Et ensuite, on verra si le pétrole est fait pour redescendre ou va se stabiliser plus haut. Il y avait pas mal de gens qui disaient quand même cette semaine, des experts en pétrole, bien compétents et tout, qui disent que même si un accord est trouvé, je vous l'ai déjà dit et répété, le pétrole peut largement rebondir encore cet été, ces prochains temps. Donc attention, c'est pas encore gagné sur le baril. On attaque maintenant le chapitre des vedettes de la semaine. On en a trois. Logitech, d'abord, 8,2% de hausse vendredi, sans vraiment des raisons officielles, sans annonce, sans rien. Ce qui s'est passé, c'est que le marché a regardé le dossier et s'est dit « Ah, tiens, une boîte qui fait des souris et des claviers pour les data centers et pour l'IA et qui se paye pas grand-chose par rapport aux semi-conducteurs. » Et voilà, la thèse de l'intelligence artificielle s'est étendue comme une tache d'huile sur un parquet ciré jusqu'à atteindre le fabricant de périphériques helvétiques. Parce que dans un marché en mode tout ce qui touche à l'IA de près ou de loin mérite une prime de 30%, Logitech coche la case équipement bureau des ingénieurs qui font tourner des LLMs. C'est léger comme thèse, je sais, mais c'est un grand classique et c'est largement suffisant pour faire exploser un titre un vendredi soir pour boucler la semaine. Et pour boucler le mois aussi, quand tout le monde est optimiste et que les shorts se couvrent, la réalité c'est que c'est probablement un mix de short squeeze, de momentum et de gestionnaire qui cherche un proxy IA pas trop cher en fin de trimestre. C'est sophistiqué comme réflexion, hein? D'accord? Bon, c'est quand même efficace pour faire 8% en une séance, visiblement. L'autre vedette, la deuxième vedette, c'est Sandoz qui attaque la Chine à coups de plaintes anti-dumping ou comment découvrir en 2026 que mettre 90% de sa production d'antibiotiques dans un seul pays, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Sandoz a donc déposé une plainte auprès de la Commission européenne pour dénoncer le dumping chinois sur la pénicilline. Et là, franchement, on applaudit l'audace, hein. Pas de Sandoz, ça c'est courageux et nécessaire. Non, on applaudit l'Europe qui découvre en 2026 que confier 90% de sa production de principes actifs d'antibiotiques à un pays avec lequel elle est en guerre commerciale larvée depuis 10 ans, c'était peut-être une vulnérabilité stratégique cruciale, comme a dit pudiquement le CEO de Sandoz. Pudiquement parce que catastrophe industrielle auto-infligée sur fond de naïveté géopolitique confondante, c'était sans doute un peu trop long pour le communiqué de presse. Le mécanisme est assez simple et assez joli dans son cynisme. La Chine subventionne massivement ses producteurs d'amoxicilline, vend en dessous des coûts de revient, détruit méthodiquement la concurrence européenne et se retrouve en situation de monopole sur un médicament qu'on donne aux enfants et qui ont une otite. Bravo, bravo, bravo à tout le monde. L'Europe a optimisé sa chaîne d'approvisionnement pharmaceutique avec la même rigueur stratégique qu'elle avait appliquée au gaz russe. Le résultat est à peu près aussi satisfaisant. La plainte de Sandoz est légitime. La commission va examiner. Les Chinois vont nier. Et dans 18 mois, si on a de la chance, il y aura peut-être des droits de douane. En attendant, continuez à prendre vos antibiotiques tant qu'il en reste. Ça ne change pas la performance du titre, mais au moins, il ne se laisse pas faire. Et puis, une fois n'est pas coutume, on va parler de LEM. Alors, pour ceux qui connaissent pas, LEM fabrique des capteurs qui mesurent le courant et la tension dans les systèmes électriques, véhicules électriques, énergie renouvelable et industrielle. C'est une société suisse qui est basée à Plan-les-Ouates, là où je suis né, côté à Zurich, environ 1500 employés. Discret, rentable, ennuyeux au possible, le genre de boîte dont on n'entend jamais parler jusqu'au jour où quelqu'un prononce le mot rachat. Et là, subitement, tout le monde est devenu un expert en capteurs électriques. Oui, le titre a explosé de 24,9%, puis 9,4% encore mercredi, en deux jours, sans accord, sans fusion annoncée, juste des déclarations concernant un éventuel rachat de la société. Un éventuel rachat. Pas un rachat, pas une offre, un éventuel rachat. Une rumeur habillée en communiqué de presse et le titre prend 35% en 48 heures et presque 50% sur la semaine. Parce que c'est ça, le marché moderne. On n'a plus besoin de fêtes, on a besoin de possibilités, de perspectives, de déclarations sur des options stratégiques explorées. Ce qui est beau et légèrement déprimant si on réfléchit trop longtemps, c'est que LEM avait publié des résultats corrects, un rebond de rentabilité et que ça n'avait intéressé pratiquement personne. Mais dès qu'un banquier d'affaires a murmuré le mot « rachat » dans un couloir, bam, 35% de hausse, l'entreprise fabrique la même chose le lundi et le mercredi, seul le narratif a changé. On peut maintenant passer au en vrac de la semaine. Mindmaze a levé 8 millions de francs dans le cadre d'un accord avec Neuro.io. Les deux entreprises sont en train d'évaluer un partenariat ou peut-être une fusion. L'UBS pense que Comet peut aller à 405 francs, c'est le nouveau target. Le fabricant autrichien de motos Barra Mobility a été victime de rumeurs qui concernent les émissions de gaz des motos KTM. Et oui, les motos émettent des gaz d'échappement, c'est hallucinant. Et après son bilan sur 4 mois, Galenica fait état d'une hausse des recettes. Le distributeur de médicaments a confirmé ses objectifs pour l'année en cours. Basilea a décroché un financement supplémentaire de 13,3 millions de dollars de la part de l'autorité américaine de recherche et de développement biomédical, la BARDA, pour le développement de l'antibiotique oral. Alors, attendez, parce que celui-là, il n'est pas simple. Hein. C'est le ceftibuten ledaborbactam, du premier coup, qui est destiné au traitement des infections urinaires compliquées. Et pour terminer, il y a le chimiste Doticon ES qui s'est effondré de plus de 20% après des chiffres qui n'étaient pas terribles et nettement inférieurs aux attentes du marché. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. C'est sympa, non ? Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qui nous attend ? Laissez-moi deviner, l'accord avec l'Iran va avancer significativement. Des sources proches des négociations vont annoncer qu'on est à 48 heures d'un accord historique. Trump va faire un post sur Truth Social que personne ne comprendra vraiment. Téhéran va publier un démenti. Le pétrole va baisser de 4%, puis va remonter de 3%. Les marchés vont monter quand même. On aura les PMI en Europe et le rapport sur l'emploi américain vendredi. Le marché va normalement observer ça. Et si l'emploi est fort, il dira que c'est l'économie qui tient. Si l'emploi est faible, il dira que la Fed va devoir baisser les taux. Dans les deux cas, les marchés vont monter. Et puis, mi-juin, la BCE va monter ses taux. Et là, on verra si le marché peut continuer à ignorer la macro avec autant de sérénité qu'il le fait depuis 2 semaines. Oui, parce que le marché peut ignorer la réalité longtemps, très longtemps, plus longtemps que tu restes solvable, comme disait Keynes, mais pas éternellement non plus. Et la réalité, elle a cette fâcheuse tendance à se rappeler à nous au moment qu'elle choisit et pas au moment qu'on préférerait. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de la commenter, de la partager. Et nous, on se retrouve bien sûr lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Merci d'avoir été avec moi. Bon week-end à tous. Allez, bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.